Pasteur John et Laura de France avec nous. Moi, je connais Pasteur John et Laura depuis 20 ans déjà. 20 ans à peu près qu'on s'est rencontrés le mois d'avril, je pense, 1984. Et c'était vraiment un rendez-vous divin. On a travaillé avec eux en France à travers plusieurs années et on a vraiment une bonne relation et ce sont des personnes très chères à notre cœur. La plupart de vous les connaissez déjà. Ils sont en France depuis 20 ans maintenant. Ils sont pasteurs de Victoire Centre Chrétien à Nice. Ils ont un centre de formation biblique et ceux qui ont lu les livres de Kenneth Hagin en français, la plupart de ces livres ont été publiés, édités par le ministère de John et Laura. En fait, c'était la mère à John qui a traduit une trentaine de ses livres en français. Donc, ce sont des personnes qui ont un cœur pour, pas juste la France, mais pour toute la francophonie. Et ils sont en train d'exercer un ministère vraiment puissant, efficace, pas juste à Nice, mais je pense qu'ils vont parler un peu ce matin de qu'est-ce qu'ils font. Ils voyagent dans beaucoup d'autres pays francophones et il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Et je sais que si votre cœur est ouvert ce matin, que vous allez être bénis. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis ce matin?
Amen.
Ouvrez votre cœur et on va recevoir Pasteur John et Laurent comme il faut. Est-ce qu'on peut les souhaiter la bienvenue à la vie comblée?
C'est bon?
Hallelujah.
Yes, is it good? C'est bon? Vous m'entendez? Oui? OK, bien. Donc, on va prendre quelques instants pour nous introduire, pour comme ça, vous pouvez un peu régler les oreilles pour l'accent. Amen. Donc, comme Pasteur Ken a dit, nous habitons en France et on essaie de parler le français. Mais d'origine, je suis britannique.
Laura, et je suis américaine, tu vois, n'est-ce pas?
Au moins, ça t'entend.
Les Américains sont très voyants. Surtout en France. Et vous les entendez! Parce qu'ils croient que s'ils parlent plus fort en anglais, les gens vont comprendre.
Mm-hmm.
Et ça joue pas, n'est-ce pas?
Mais nous sommes vraiment ravis d'être avec vous. Donc, on est arrivé mercredi soir. Comme Pasteur Ken a dit, on est toujours sur le décollage horaire. Vers 8 heures du soir, on est KO. Hein? Donc, on couche avant 9 heures, on dort, et à 3 heures du matin, on est réveillé. Donc, c'est génial. Si vous n'avez pas voyagé transatlantique, cette expérience vous attend. C'est merveilleux. Donc, mais nous sommes ravis d'être ici. Donc, comme je dis, on va s'introduire un petit peu. D'abord, petit sondage. Qui nous a déjà entendu? Parce qu'on était là l'année dernière, et on était là il y a 3 ans passés, et on était là en 95 aussi. D'accord? Qui nous a jamais entendu? Jamais vu?
Oh, quel courage vous avez, quel courage.
Donc,
ça dit.
Il faut mettre le sens de sa sécurité, parce qu'on va décoller et on va aller assez rapidement. Mais on voulait prendre quelques instants pour partager un peu de ce qu'on a vécu cette dernière année, parce qu'une partie de notre ministère, c'est le pastorat de l'Église à Nice. Vous connaissez où est Nice? Vous connaissez où? En France, et où particulièrement? La Côte d'Azur, oui.
C'est joli comme tout. Vous avez les palmiers. Et on peut voir la neige à travers les palmiers. Je dis, je suis délivrée du Minnesota. Oh, hallelujah, hallelujah. J'aime la neige, mais de loin. Tu sais, même quand on est parti, on avait la neige sur les montagnes, sur les Alpes. Puis je dis, hallelujah, je suis un mange-corps. Hallelujah,
hallelujah. Donc, nous habitons le sud de la France depuis 20 ans et on est pasteur et heureux d'être. On a une super église qui s'appelle Victoire Centre Chrétien. Et c'est très intéressant parce qu'ils avaient changé le piste cyclable, je pense, jusqu'après notre voyage ici l'année dernière. Et ce qu'ils viennent de faire à Nice, c'est qu'ils viennent de faire des travaux. Ils sont en train de changer les grandes tuyaux d'eau usées juste à côté de notre église. Donc, ils ont détourné toutes les voitures que ça passe devant notre église. Et notre église, Nice est une assez grande ville, très compacte. Il y a 352 000 habitants, le dernier sondage statistique. Et notre église est un peu retirée, un peu cachée. Les prix sont très, très élevés à Nice, donc un peu comme Paris, c'est très, très élevé. Mais donc maintenant, toutes les voitures passent devant notre église. Donc, ils ont commencé la semaine dernière.
On a fait un panneau qui dit, ne fait que vous passer. Joignez-nous le dimanche matin à 10h avec le site web. Tu sais, parce qu'on dit, c'est trop beau. Et cette semaine, ils sont allés avec les bonbons pour le remettre avec un petit traité qui dit, oh, vous avez marre d'être dans la circulation. Vous pouvez perdre beaucoup dans votre vie. Ouais. Mais c'est super. Alors, les gens sont très contents de barbader quand ils passent, ils sont là. En 5 minutes, vous avez 30 voitures qui passent.
Et pour nous, ça, c'est beaucoup.
Avec le vide de son Dieu et les gens, ils le passent.
Donc, on a beaucoup de nouvelles personnes dans l'église qui sont ravies d'aller dehors et parler avec les gens. Donc, c'est bon. Et c'est une super idée d'offrir les bouteilles d'eau aux cyclistes, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis l'année dernière? Donc, on voyage beaucoup. Ça fait une autre partie de notre ministère. À part le pastorat de l'église, nous voyageons par moyen une semaine ou un long week-end par mois. Et nous voyageons surtout en France et en Suisse francophone, la plupart du temps. En passant par l'Italie, pour que vous sortez votre plan, d'accord, votre
carte géographique. C'est une place que vous n'avez pas beaucoup aimée.
Ouais, et voir où c'est, parce que nous sommes à Nice, qui est dans le sud-est de la France, et c'est plus vite, quelquefois, de passer par l'Italie et la Suisse pour arriver dans l'est de la France, parce qu'on était à Mulhouse, on était à Strasbourg.
En 30 minutes, nous sommes en Italie. Mm-hmm. D'accord. Vous allez en 20 minutes dans l'autre sens, vous êtes à Cannes, et 20 minutes de l'autre côté, vous êtes à Monte Carlo. Mm-hmm. C'est très, très bourgeois. C'est super. Mm-hmm. Vous savez, mes amis, Dieu a besoin de vous dans ces endroits aussi. Mm-hmm. Et vous savez, quand vous avez vous tellement chou accent québécois, les gens trouvent c'est fabuleux.
Vous savez ça, que les Français aiment l'accent québécois? Non, vous
ne
savez pas?
Oui.
Oh, j'adore ça.
On regarde vos films.
Ah oui.
On regarde vos films, mais ils sont toujours sous-titrés en français.
Ouais. C'est vrai. On sait quand c'est un film québécois parce que c'est sous-titré français. Parce que...
Mais ça passe aux heures, alors les gens regardent.
Mais les gens aiment beaucoup. Donc, ce que nous avons fait, tu racontes un petit peu ce qu'on a fait cette dernière année?
Alors, on a fait mutuellement beaucoup avec des jeunesses. Alors, on a eu l'occasion, parce que souvent on va dans les différents groupes de jeunesse, et c'est un tel plaisir. Mais on a dit, Seigneur, il y a tellement de groupes de jeunesse, et on ne peut pas se déplacer pour aller à tous qui nous demandent en visite. Souvent on fait un vendredi soir, un samedi soir, et un dimanche soir, on fait plusieurs. Et on a dit, Seigneur.
Et nous enseignons.
Et on nous enseigne sur la relation garçon-fille, sur la sexualité. C'est comme ils sont précieux, mais il ne faut pas brûler les étapes. Comme c'est bon d'être amoureuse de quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui vous chérit, qui vous aime. Mais entre-temps, il faut se garder. Mm-hmm. Et comment protéger ce que vous êtes. Et c'est très, très bon. Mm. Mais on a dit, aïe, 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 Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on fait des vidéos, et c'est bon. Et le Seigneur a ouvert une porte. Ouais. Et on avait 120 dirigeants de jeunes à qui on a pu enseigner la parole pendant... On était avec eux 15 heures d'un filet. Alors, c'était excellent. Ouais. Et on a pu les enseigner. Et ensuite, il avait 2 mois et demi plus tard, ce printemps, on était dans une grande convention en Suisse avec 1200 jeunes. Et alors, il nous a donné tous les moyens de 18 ans. On a pu parler un peu avec tout le monde, mais on avait tous les moins que 18 ans. Et c'était fabuleux. Et on les a donné les mini-livres. Et c'était très bon. Les mini-livres sont des petits bouquins de Kenneth Hagin. Mmh. Alors, c'était très, très bon.
Oui, donc, vous savez, quelquefois, on voit un besoin. Quelquefois, on voit quelque chose qui cloche. Et vous savez, notre attitude est très, très importante à ce moment. Parce qu'on peut se fâcher. On peut être frustré. On peut être impatient. Ou on peut dire, Seigneur, je vois un besoin. Et on prie. Et ce que Laure et moi avons trouvé, c'est que ce n'est pas la peine de se fâcher, ce n'est pas la peine d'être frustré, parce que quand on invoque le nom du Seigneur, il répond.
Hallelujah.
Et quelquefois, il faut attendre, mais on a vu ça, on était un peu frustré parce qu'on dit, mais ce n'est pas parce qu'il y a tous ces groupes qui nous invitent, on ne peut pas dire oui à tout le monde, donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, donne-nous l'occasion d'enseigner un plus grand groupe. Et il a ouvert cette occasion, 120 dirigeants de groupes de jeunes dans le Suisse romande, et c'était génial. Aussi, cette année passée, on est parti à Paris. Je pense qu'on a déjà parlé de l'église de Charisme à Paris. Ils font 3 cultes le dimanche et ils vont passer à leur 4e. Ils ont un petit local où ils peuvent seulement contenir 1500 personnes à la fois.
Ouais. Et c'est enterré. Vous ne pouvez pas le voir. Vous êtes assis comme ça entre tous les gens. Et le premier rang commence ici devant le slide. Vous n'avez même pas un mètre. Vous avez...
Et ils utilisent tous les salles annexes avec des télévisions. Donc, si vous n'êtes pas là assez tôt, vous êtes dans une salle annexe, vous n'êtes
si
même pas en vrai.
Si vous voulez avoir une place dans la salle en bas, il faut venir 2 heures avant que le culte commence.
Donc, ils sont presque 4000 maintenant. Hein? Et donc, nous étions là, ils nous invitent chaque année pour enseigner sur les relations. Et j'ai resté pour enseigner. Ils ont 2 années d'école biblique et ils ont plus que 200 étudiants maintenant dans les écoles bibliques. Et ils sont en train de commencer plus qu'une 20aine d'églises à travers la France. Mm-hmm. Ça va vous dire qu'il y a des choses qui se passent en France parce que souvent on entend, c'est difficile.
Et c'est en portugais, vous vous rendez compte?
Mm-hmm, le pasteur.
Avec une anglaise. Mm-hmm. Qui sont les pasteurs. Mm-hmm. Dieu prend les choses folles pour confondre les sages.
Mm-hmm.
C'est pas que les Portugais sont folles, mais tu comprends? Mm-hmm. Mais c'est, vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, on pense pas, il faut que ce soit en français, de souche, de 1600, mais c'est pas du tout ça. Mm-hmm. C'est le feu, c'est l'appel dans votre vie. Mm-hmm. C'est pour ça, mes amis, il faut pas que vous vous limitiez par vos paroles.
Ouais.
Il faut que vous dites, me voici Seigneur, mm-hmm. utilise-moi,
Amen.
Envoie-moi où tu veux. Des gens ont besoin de moi et je suis disponible d'être une source de bénédiction par laquelle la grâce et l'amour du Père puissent couler.
Amen. Hallelujah. Donc, comme je dis, on a voyagé pas mal en Suisse, donc en France, on a eu des séminaires super. Donc en Strasbourg, on était là en octobre, on était à Mulhouse. En janvier.
Il y a des super choucroutes là-bas. Aïe, aïe, aïe. Le choucroute garni, c'est fabuleux. Vous n'avez jamais mangé. Vous aimez des choucroutes?
Vous connaissez le choucroute?
Non.
Ils connaissent pas.
Oh, d'accord. Vous prenez le chou et vous le coupez en lames très fines. Et ensuite, vous le faites bouillir pendant longtemps. Et ensuite, des grosses saucisses, des jambons, plein de choses comme ça.
Pommes de terre.
Mais c'est bon. Avec beaucoup de moutarde.
Hallelujah.
En France, on parle toujours de nourriture.
Ouais.
Vous savez, même à table, on parle de nourriture.
Ouais. Ouais. Mais je pense que dans tous les pays, on parle de nourriture. Donc, nous avons eu donc, le privilège, donc, on voyage dans beaucoup d'églises, et ça, on a trouvé que c'était une force pour notre église, parce qu'on ramène, on apprend les choses
Amen.
Partout, on ramène des chants, et comme nous avons fait l'année dernière, on en emmène des chants, et on chante avec les groupes de louanges souvent, et c'est très, très bon.
Mm-hmm.
Aussi, une autre chose, et on va terminer avec ça, rentrer dans notre sujet, c'est que cette année, nous avons pu réimprimer nos livres parce qu'on avait eu un moment creux. Vous savez, dans la vie, Pasteur Ken a dit déjà ce matin qu'il y a des problèmes dans la vie quelquefois, n'est-ce pas? Autant pour les pasteurs, pour les autres. Et quelquefois dans les églises, il y a des moments de problèmes, moments où il y a...
Peut-être... Non! Pas dans une église! Oh, non. Jamais dans le vôtre! Peut-être dans le nôtre, mais jamais dans le vôtre, n'est-ce pas? Vous avez Ken and Tanya pour pasteur.
Voilà,
ouais.
Mais on a eu vraiment un moment creux dans le ministère des livres. On a même un moment pensé à arrêter ce ministère qui a commencé en 85.
On a 35 livres qu'on a imprimés à traduire.
Ouais.
D'accord, ça fait une grosse somme et beaucoup de stockage et tout le reste.
Ouais. Et on a même presque pris la décision d'arrêter le ministère. Le Seigneur nous a parlé très, très fortement. Il dit non, je vous ai appelé le faire.
Tu veux dire que quelquefois Dieu demande à faire des choses que tu ne veux pas faire?
Mm-hmm. Quelquefois.
Non. Vous avez suivi ça?
Amen. Mais il nous a donné l'envie et donc aujourd'hui, donc je pense.
Aussi les finances.
Je crois, c'est mardi, 2 livres, donc 2 mini-livres vont arriver et jusque-là, nous avons pu réimprimer et payer tous nos livres de Kenneth Hagin sont réimprimés maintenant. On a 2 livres de Marc Vazy qui ont eu besoin d'être réimprimés. Je crois qu'il y avait 11 livres en tout qui étaient hors impression.
Depuis des années.
Certains depuis des années. Donc mardi, tous les livres que nous avons jamais traduits et imprimés seront réimprimés. Ils sont tous payés. Tout ce qu'on devait à l'imprimeur est payé. Et nous avons des commandes qui arrivent de partout. Et vraiment, je dis, gloire à Dieu. Amen.
Hallelujah.
You want to go down and change the
yes, amen.
Okay. Donc.
Alors maintenant, je vous laisse mon bien-aimé qui est un docteur de la parole super et je vais le rejoindre tout à l'heure pour l'interrompre beaucoup.
C'était pour vous donner une petite idée de notre ministère parce que ça choque quelques personnes. Quelquefois, il dit, mais votre femme, elle vous interrompt tout le temps. Je dis, oui, mais moi je l'interromps aussi. Amen. C'est la façon que Dieu nous a appelés. Donc, quand on voyage, c'est comme ça. Et donc, j'espère que ça ne vous gêne pas, parce que ça ne nous gêne pas de tout. D'accord? OK? Donc, je voulais prendre quelques moments, et je voulais d'abord montrer ces livres. Je les ai pris de derrière. Je les remettrai après, d'accord? Parce qu'ils ne sont pas à moi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, La porte ouverte sur la foi. Qui connaît ce livre? Vous l'avez lu? Ça vous a fait du bien? C'est un livre absolument exceptionnel, 26 leçons sur la foi, si vous trouvez que votre foi est petite, que votre foi est faible, qu'il vous en manque de la foi, ce livre est un must pour vous. On utilise ce mot en Québec, must? Oui. Non? Oui, avec un accent différent, mais c'est le même mot, d'accord? Oui, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est dans des petites quantités, des petits chapitres de 3 ou 4 pages, et vous pouvez faire ça sur 26 jours ou sur 26 semaines ou même 26 mois si vous voulez. Mais ce que vous allez voir, et c'est le ministère de Kenneth Hagin, ouais, Dieu lui a dit, enseigne mon peuple la foi. Et ce livre, c'est un des basiques de Kenneth Hagin, et ça va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Donc nous allons parler maintenant de la communication. Et je pense qu'il nous faut de la foi dans la communication. Amen. Quelquefois, nous séparons notre vie dans les différents domaines, le domaine du travail, le domaine de la famille, le domaine du loisir et le domaine spirituel. Ouais. Quelque part, nous avons fait une grosse erreur là, parce que le domaine spirituel, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au travail, à la maison, au loisir, ouais, peu importe, on a besoin de vivre par la foi, le juste vivra par la foi. Et donc, je vraiment vous conseille ce livre, ça va vous faire du bien. Et ce que nous faisons dans notre église, chaque printemps, été, nous commençons à conseiller des livres, parce qu'en été, il y a plus de temps, n'est-ce pas, le soleil brille plus tôt, ça se lève tôt ici. Oui, je suis levé avant le soleil, mais je le vois lever chaque matin. Oui, et ça couche tard, donc ça veut dire qu'on a plus d'heures. Et c'est excellent de prendre un livre et dire, je vais étudier ce livre cette année ou cet été. Et comme ça, vous allez voir que vous allez croître spirituellement, oui, oui, pendant l'été. Et j'ai pris aussi deux petits livres qui parlent aussi un peu du même sujet. Ce livre est absolument exceptionnel. C'est ce que l'on appelle des mini-livres. Oui, mini-livres, mais grands messages sur l'importance de nos paroles. Et aussi ce livre... Oui, ce que vous dites s'accomplira. Amen. Non, c'est bon. OK. Donc, est-ce que vous avez vos Bibles avec vous?
Oui.
Amen. Vous voulez le lever? Le secouer un peu et faire peur au diable? Amen. Vous savez qu'il est vaincu?
Oui.
Ouais. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent trop de temps en train de parler du diable. Si vous en parlez, ouais, terminez toujours en disant, il est vaincu. Parce qu'à la croix du calvaire, Jésus a vaincu le diable. Amen. Et ça fait de nous plus que? Amen. Et ça, c'est pas quelque chose pour dimanche matin. C'est quelque chose pour lundi matin et lundi soir et surtout vendredi soir. Amen. Quand vous êtes fatigué du travail, fatigué parce qu'il y a des choses qui vous entourent, des circonstances, il faut dire, je suis encore plus que vainqueur parce que Jésus est encore vainqueur. Amen. Et Satan, tu es vaincu. Amen. Donc, c'est très important. Donc, je voulais prendre quelques moments pour nous rappeler que ce que vous dites s'accomplira. Donc, nous réalisons, en venant dans cette église, vous êtes dans une église de la foi, une église qui enseigne la foi. Et donc, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de temps. Normalement, nous allons dans les églises qui ne connaissent pas tellement l'enseignement sur la foi. Ils nous invitent d'enseigner sur les relations garçons-filles, sur les relations des couples. On a fait un retraite exceptionnel avec des couples en Allemagne. C'est une église germanophone suisse. Mais on allait dans le forêt noir d'Allemagne pour faire ce retraite. C'était formidable. Ouais, mais souvent, on va dans les églises qui ne connaissent pas le message de la foi. Ils peut-être sont forts dans la louange, ou forts dans la prière, ou forts dans un domaine ou d'autre. Donc, on a besoin de prendre beaucoup de temps. Mais je sais que vous êtes bien enseignés sur la foi ici. Donc, je vais seulement vous faire un petit résumé. D'accord? Mais je veux que vous compreniez que ce que nous allons dire aujourd'hui, ouais, c'est dans le domaine de la communication. D'accord? Et nous avons tous besoin de communiquer. Pour que nous comprenions que la base de notre vie spirituelle, c'est notre communication avec Dieu. Il y a la communion, mais la communion sans la communication n'existe pas. Vous êtes d'accord? Donc ce n'est pas seulement réservé à ceux qui sont mariés ou ceux qui sont en famille, c'est à ceux qui vivent sur terre. Dieu a mandaté personne d'aller vivre seul. C'était un des erreurs du Moyen-Âge. Les gens sont échappés, ils ont essayé d'échapper le monde et vivre en tant qu'ermite presque. Oui, ils ont pris des vœux de silence. Vous savez que Dieu a appelé personne à prendre des vœux de silence. Peut-être qu'il vous dit de temps en temps de vous taire. Ça m'est arrivé aussi. Amen. Hein? Même quelquefois, c'était un de mes buts quand je suis arrivé en Québec, je dis, je ne parlerai pas jeudi. Parce que j'avais tellement parlé ces derniers temps, j'avais traduit pour quelqu'un dimanche dernier, et j'avais presque plus de voix. Je dis, je vais prendre une journée sans presque parler. Sauf que j'avais Laura à côté de moi, donc il fallait parler de temps en temps. Ouais. Mais Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à se taire. Dieu nous a appelés à aller et annoncer, à prêcher ou enseigner, n'est-ce pas? Donc, mais nous avons besoin d'apprendre à communiquer. Et communiquer, ce n'est pas que parler. Amen? Parce que ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un et que la personne ne fait pas ce que tu demandes, ne comprend pas de tout ce que vous êtes en train de dire. Nous étions dans une grande surface ici l'autre jour, il y avait quelqu'un assis sur une chaise et il avait des fleurs devant lui et il a dit quelque chose à Laura, mais il n'a pas communiqué avec elle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a compris absolument rien de ce qu'il a dit. Et on était tellement étonnés parce qu'on voyait sa bouche bouger. Oui, on était encore, tu vois, un peu dans le décollage, oui, beaucoup dans le décollage. Et il parlait comme ça, on entendait du bruit, mais on ne comprenait strictement rien. Ça, ce n'est pas la communication, vous êtes d'accord? Amen. La communication, c'est quand on dit quelque chose et l'autre personne comprend et reprend. Amen. Donc, je pense que c'est très, très important pour nous de comprendre ce que c'est la communication. C'est de parler d'une façon que l'autre puisse comprendre. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dit quelque chose et vous dit « Pardon ?» Et la personne répète la même chose, d'exactement la même façon, et tu dis « Pardon ?» Et la personne dit la même chose, d'exactement la même façon, et tu dis « Pardon ?» Et la personne dit exactement la même chose, la même personne dit « Je ne vais jamais comprendre. Je ne comprends pas les mots que vous utilisez. Donc, au moins, essayez d'utiliser un autre mot. Hein? » Communication, c'est de parler, que l'autre personne puisse comprendre et que l'autre personne répond. Vous êtes d'accord? Donc, c'est toute une question de parole. Amen. Et nous sommes les gens de la parole. Vous tournez avec moi dans le psaume 19 et verset 15. Non? Non, oui. 19, 15, exactement. Hallelujah! Vous voulez communiquer mieux? Vous voulez que quand vous parlez, que les gens comprennent? Amen? Oui? C'est très important. Vous n'avez pas besoin d'être extraverti comme moi et Laura. Amen. Normalement, quand on commence dans l'église qui ne nous connaissent pas, je commence, et après avoir parlé un petit peu, je dis, et c'est moi celui qui est le timide dans notre couple. Ouais, et ça fait peur aux gens, parce que si moi je suis timide, qu'est-ce que peut être Laura? Mais vous l'avez déjà vu et vous le connaissez bien. Hein? Ouais. Mais nous sommes très extravertis. Ouais. Nous n'avons aucun problème. Vous nous mettez devant 1000 personnes, vous nous mettez devant 3000 personnes, vous nous mettez devant 10 000 personnes. Ouais, on est très très heureux. Ça nous gêne pas du tout d'être devant les gens, d'être filmé. Vous savez, on était à la télé, on était sur la radio. Ça c'est nous. Il y a d'autres personnes, c'est la dernière chose qu'ils veulent. N'est-ce pas? Même peut-être dans cette salle, il y a certaines personnes. Si je vous dis, vous voulez venir parler, bien sur les traces, je vous donne un micro, vous dites, non merci! Ouais? Et ça fait partie de votre caractère, de votre personnalité. Et Dieu vous a créé autant, mais vous savez, vous avez peut-être un contact personnel avec des individus que moi, j'aurais jamais. Vous savez que je fais peur aux gens. Et Laure encore plus. Surtout quand ils crient comme ça. Mais ça va, vous savez ce qu'on a appris. C'est quand Laure rit comme ça, tous les esprits mauvais qu'ils voulaient envoyer, oh, ouais, ont peur aussi. Oh, ils partent vite. Ouais, ouais. Alléluia. Donc Dieu nous a créés chacun comme nous sommes. Et nous ne devons pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Mais peu importe qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie, vous avez besoin de communiquer. Et de communiquer d'une façon, pas seulement que les gens comprennent et que les gens répondent, mais que les gens veulent vous écouter. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui communiquent, mais tout ce qu'on peut faire, c'est les laisser tomber. N'est-ce pas? Oui. Ils communiquent tellement mal, je dis que leur façon de parler, ce qu'ils disent, c'est que je l'ai entendu une fois et ça me suffit pour la vie. Et nous avons besoin de dire, ouais, que notre base, c'est nous sommes chrétiens, nous avons invité Jésus d'entrer dans notre vie, nous voulons vivre avec Christ, pour Christ et comme Christ. Donc nous voulons que les gens aient envie de nous entendre. Vous avez une bonne nouvelle à annoncer? Qui a une bonne nouvelle à annoncer? Amen. Vous êtes ambassadeur de Christ? Ambassadrice? Oui? Donc, on veut que les gens aient envie de nous entendre. Vous êtes d'accord? Donc, c'est très, très important. Donc, le psaume 19, verset 15 dit, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Vous savez qu'il y a certaines choses que Dieu n'entend pas. Il n'écoute pas. Parce que certaines personnes pensent qu'on peut traiter Dieu n'importe comment. Et que Dieu va nous écouter, Dieu va répondre. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des réponses. Dieu attend certaines choses de nous. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et quand vous parlez avec Dieu, il faut parler avec foi. Si vous voulez l'oreille de Dieu, parle avec foi. Amen. Je ne sais pas, pour vous, nous avons deux enfants, donc c'est la fête des mères. Nos enfants sont loin, mais en France, c'est la fête de mère le 6 juin. C'est toujours différent dans les différents pays. Mais heureusement, on a su que c'était la fête de mère ici, parce que c'est pareil aux États-Unis. Donc Laure a appelé sa maman hier pour lui souhaiter une bonne fête de mère. Mais nos enfants, donc Rebecca vient d'avoir 18 ans. C'est extraordinaire qu'on peut être si jeune et avoir des enfants si grands, n'est-ce pas? Et notre fils Johnny, il a 16 ans et il grandit à ce moment. Ouais. On essaie de pas trop nourrir, mais c'est impossible. Ouais. Ouais. Il mange tellement, et chaque matin qu'il se lève, on a l'impression qu'il est encore plus grand. Si on met nos mains ensemble, voilà sa main. C'est comme ça, au-dessus du mien. Il n'est pas plus grand que moi encore, donc je reste gentil avec lui. Moi je dis, si vous êtes gentil avec les enfants quand ils sont petits, vous pouvez les dire quand ils sont plus grands. Vous vous rappelez, j'étais gentil avec toi? J'ai appris ça tôt dans l'église, parce qu'il y avait tellement de petits garçons. Je dis, tous ces garçons, j'ai regardé leur papa, et le plus petit était plus grand que moi. Je dis, je suis gentil avec toi, tu te rappelles plus tard. Maintenant, ils sont grands comme ça. Je dis, tu te rappelles, j'étais... Mais avec nos enfants, je ne sais pas comment c'est pour vous. Quelques-uns ont des enfants ici. Peut-être qu'ils sont encore plus grands que les nôtres. Mais vous savez, si vos enfants viennent tout le temps en train de se plaindre, vous aimez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les enfants qui... Qu'est-ce qu'on appelle? Grinoche? Donc, grand chant? Ouais. Du ching? Ah, ouais. Vous aimez ça? Quelqu'un aime ça?
Non?
Qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand ils commencent à être comme ça? Ouais. Vous savez, nous, on a dit, il y a un lit par là. Ça semble que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Ouais. Parce que vous savez, j'ai dit à mes enfants, nous avons dit à nos enfants, ça ne va jamais marcher avec vous comme ça. Vous voulez quelque chose? Viens nous le dire. Vous croyez qu'il y a une justice? Viens nous parler. Vous n'avez pas assez d'argent? Mais viens nous parler, plaide ta cause. Mais ne dis pas, c'est pas injuste, les autres en plus que... Ouais. Ça touche les cordes de votre cœur quand les enfants parlent comme ça? Moi, pas du tout. Moi, je l'ai dit, tu ne me parles pas comme ça. Ouais. Tu sais que je suis un homme honnête, je suis juste, je fais ce que je dis, ouais. Et tu sais, je suis généreux. Allô? Est-ce qu'il y a des autres hommes généreux dans l'église? Vous savez, parce que certains croient qu'ils sont généreux parce que chaque fois qu'il y a un missionnaire, on donne quelque chose. Mais moi, je dis, est-ce que votre femme dit que vous êtes généreux?
Amen.
Merci. Tu vois, elle sait que je vais payer après. Est-ce que vos enfants croient que vous êtes généreux? Parce que si eux, ils ne savent pas que vous êtes généreux, vous n'êtes pas généreux. Ça ne va pas être généreux à l'extérieur si vous n'êtes pas généreux à l'intérieur. La Bible dit que celui qui ne pourvoit pas aux besoins de sa famille est pire qu'un infidèle. Amen. Mais je n'accepte pas que mes enfants viennent râler. Je n'accepte pas que mes enfants... Et si je suis comme ça, comment est Dieu? Vous pensez qu'il veut qu'on vienne se plaindre tout le temps? Oui, tu ne comprends pas, tous les autres, ils ont ceci et tout. Ça, ce n'est pas la foi. La foi dit, Seigneur, je vois combien tu as béni un tel. Et je te loue que tu as béni mon frère et ma sœur. Tu as béni ces personnes. Mais Seigneur, moi aussi j'ai besoin et je crois. Amen. Hallelujah. Tu as dit que tu pourvois tous mes besoins. Je vois que tu pourvois ici. Je vois que tu... Et je te loue pour ça. Tu vois la différence? On peut poser une question à plus de différentes façons, n'est-ce pas? Mais nous sommes les gens de la foi. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Amen. C'est une question de communication. Donc, regardons avec moi. On va regarder en Romains 4, 17. Je crois qu'un de nos plus grands problèmes en tant qu'être humain et en tant que chrétien, c'est que nous attendons que les autres soient parfaits. Tout en sachant que nous ne sommes pas. Nous voulons que les autres soient mûrs, matures, mais nous ne sommes pas encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà arrivé à la perfection? Parce que si oui, vous venez prendre notre place, d'accord? Parce que moi, j'ai pris la route il y a 30 ans passé. Et je marche avec Jésus depuis 30 ans. Et je réalise qu'il y a encore beaucoup de routes à faire. J'ai fait du chemin. Dieu a changé cet homme de l'intérieur à l'extérieur. Il y a beaucoup de... J'ai une femme dans la foi, tu vois? Toujours dans la foi que je puisse changer encore. Amen. Mais il y a... Ouais. Mais nous réalisons, Laure et moi, que nous ne sommes pas des êtres parfaits, et donc nous ne pouvons pas attendre des autres la perfection. Donc on a besoin de vivre par la foi. Amen. C'est le problème avec l'Église souvent. Nous attendons que chaque autre personne dans l'Église agisse d'une façon parfaite. Et quand les gens n'agissent pas parfaite, on se fâche. Amen. Certains cherchent l'Église parfaite. Moi, je le dis. J'ai deux conseils à ceux qui cherchent l'Église parfaite. La première chose, si jamais vous le trouvez, amen, vous le laissez tranquille, parce que si vous le joignez, ce n'est plus parfait. Oui. Et l'autre chose, c'est que si vous voulez vraiment l'Église parfaite, il faut mourir. Parce que l'Église parfaite est au ciel. Amen. Donc, nous avons besoin de comprendre que nous allons traiter sur terre avec les gens imparfaits. Autant des chrétiens que des non-chrétiens. Parce qu'on attend des non-chrétiens qu'ils agissent comme des non-chrétiens. Amen. Quelque part, on accepte cela, parce que sinon, on a besoin de le rejeter en bloc et dire, c'est fini, j'ai plus de contact avec eux. Mais tu ne peux pas gagner des gens avec qui tu n'as pas de contact. Vous êtes d'accord? Donc, on a besoin de vérifier le contact qu'on a avec eux. Il faut saisir les bons moments et laisser des mauvais moments. Vous êtes d'accord? Amen. Il y a un moment pour aller à la fête. Parce que les voisins vous invitent, ils ouvrent leur maison et disent on va faire la fête. Donc vous allez, peut-être comme Laure et moi, on va au commencement. Et si les gens après commencent à s'enivrer les autres choses comme ça, c'est le moment de dire bon, au revoir, on part maintenant. Vous êtes d'accord? Parce qu'au commencement, on peut le parler de Jésus, mais après, c'est mieux qu'on ne reste pas là. Vous êtes d'accord? Mais il y a beaucoup de gens qui disent non, 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 je ne vais pas.
Mondain.
C'est mondain? C'est ça? Ok. Romains 4, 17. Qu'êtes-vous en train de dire? Dieu a créé tout ce que nous voyons à travers ses paroles. Même avant la lumière soit, Dieu a dit quelque chose. Il a dit que la lumière soit. Amen. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Nous avons besoin d'apprendre que nos paroles sont comme les paroles de Dieu. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et quand nous parlons, nous créons. Moi, je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? La Bible dit que nous avons plusieurs miroirs. Je dis miroir en Québec ou des glaces? Des miroirs. On a plusieurs miroirs. Un miroir, c'est la parole de Dieu. Et on se voit refléter dans la parole. C'est pourquoi je lis ma Bible tous les jours. Vous lisez votre Bible tous les jours? Oui. Certains qui disent, Dieu me parle jamais. Je dis, donc vous ne lisez pas votre Bible. C'est très simple. Lisez votre Bible, Dieu va vous parler. Et quand vous avez l'habitude d'entendre Dieu vous parler à travers ta Bible, tu vas commencer à entendre Dieu te parler dans ton cœur. Des choses précises qui ne sont pas écrits dans la Bible, comme pour Laure et moi, habiter en France, faire ce ministère. Amen. Ces choses ne sont pas écrites dans la Bible, mais Dieu les a écrites dans nos cœurs. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important que nous apprenions à écouter Dieu. Dieu parle quand nous lisons la Bible. Amen. Hallelujah. Donc, nous avons besoin donc, d'apprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, il appelle. Amen. Quand vous voulez quelque chose, qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas. Right? Et il y a une autre glace. Oui, j'étais en train de parler des miroirs. Un des miroirs, c'est la Bible. Un autre, c'est les autres. Jésus a dit en Matthieu 6, quand tu vois la poutre dans l'œil, la paille dans l'œil de ton frère, d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil. Amen. Ça veut dire quoi? C'est quand tu vois une erreur chez ton ami. Une erreur dans la vie de quelqu'un d'autre dans l'église, avant d'aller essayer de régler ça, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ce domaine, dans ma vie? Vous avez remarqué combien c'est facile de voir l'erreur chez l'autre? On a l'impression que le diable nous montre. Tu as seulement besoin d'entrer dans la maison de quelqu'un d'autre et tu vois tout de suite des choses qui ne vont pas. Non? Et on rentre chez nous et on voit rien. On s'est habitué à ces erreurs, n'est-ce pas? Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'est-ce que j'ai à changer? Et non pas essayer de mettre tes doigts ça ou ton voisin. Amen? Enlève ta poutre d'abord. Amen? Donc, c'est un miroir pour nous aider. Et ce que Laure et moi, nous avons remarqué, en écoutant les autres parler, souvent, on voit pourquoi les choses ne marchent pas pour eux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Combien c'est facile de dire, mais je sais pourquoi ça ne marche pas pour eux, parce que vous parlez comme ça. Pourquoi? Parce que la foi appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient, et vous êtes toujours en train de dire, tu ne peux pas. Et c'est très facile de devenir critique. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas un don spirituel. Bien que certains croient que c'est le dixième don de l'esprit, le don de la critique, non, ce n'est pas dans la liste, d'accord? Amen. Mais il faut que je tombe ça sur moi-même et dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de dire à propos de cela? Amen. Donc, on va lire ça après on va voir le dernier verset. Laura, tu viens me joindre, d'accord? Il dit, il est notre Père. Je suis en Romains 4, 6, 7. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, dis avec moi, je sais communiquer. Je sais parler d'une façon que les autres puissent comprendre et répondre. Amen? Parce que si vous êtes toujours en train de dire, je suis mauvais communicateur, je ne sais pas parler, ce que vous dites, vous avez. Amen? Donc, c'est l'heure de changer cela. Et commencer à dire, je sais parler, j'apprends à parler, je sais communiquer. Amen? D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez devenir un orateur. Ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'être tous orateurs. Vous êtes d'accord? Amen? Ne me demandez pas de vous aider avec le bricolage chez vous. D'accord? Si vous voulez que quelqu'un porte quelque chose, je peux faire ça. Mais le bricolage, c'est mieux que vous inviter quelqu'un d'autre. Bien, Laura. Amen? Donc, je voulais vraiment qu'on prenne ce temps pour comprendre que communication, c'est une question de foi.
Amen. Et vous savez, la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même.
Laura?
Oh, quelle honte. C'est plus facile à changer mon mari, ou mes enfants, ou tous les autres, n'est-ce pas?
Non. Nous allons essayer ça, on commence notre mariage. Laura essaie de me changer, j'essaie de le changer.
Vous imaginez? On a chacun têtu. Je ne sais pas pour vous, mais nous têtu.
Amen. Pour savoir qui vous êtes. J'ai dit une bêtise. J'ai dit que c'était en Matthieu 6. C'est pas en Matthieu 6 à propos de la poutre et la paille. C'est en Matthieu 7, d'accord? C'est Matthieu 7, versets 1 à 5. Je sais combien c'est frustrant quand on prend des notes et quelqu'un nous donne une référence et on regarde après et dit, je trouve pas. Donc c'est Matthieu 7, 1 à 5.
Mais vous savez, de pouvoir vous changer, il faut que vous aimez vous-même. Nous faisons quelque chose chaque dimanche à notre église.
Nous.
À Nice. Je fais quelque chose avec vous chaque dimanche. OK, d'accord. Soyons clairs. C'est plus facile à dire nous.
Ah, d'accord. Oui, nous. Nous, c'est plus facile quand nous avons besoin d'écrire notre lettre nouvelle.
Et c'est lui qui fasse tout.
Nous avons besoin de faire nos cartes de vœux. Quand Laura dit nous, quelquefois ça veut dire elle, mais quelquefois ça veut dire moi.
Moi, je prends la photo, il fait tout le boulot.
Donc, toi, tu fais chaque dimanche.
Alors, chaque dimanche, on a des choses qu'on se dit, parce que la foi vient de ce qu'on
entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Amen.
Alors, une de les choses que nous disons chaque dimanche, c'est Je suis
un miracle.
Ambulant. D'accord? Vous pouvez remettre. Je suis
un miracle.
Ambulant. D'accord? Deuxième chose qu'on dit, je suis
un cauchemar
pour le diable.
Parce que
je mets en pratique
la parole de Dieu.
Ça lui fait peur, je t'assure. Au lieu d'avoir des cauchemars, tu lui donnes. J'ai eu beaucoup de cauchemars dans ma vie, je suis ravie de lui donner quelques-uns. Alors, une troisième chose qu'on dit dans l'église, c'est que je m'aime. Besna. Et tu dis Besna! Oh là là! C'est trop drôle! Mais vous savez, mes amis, si on n'aime pas nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut aimer les gens qui nous entourent? Vous rendez compte? Vous avez jamais parlé avec quelqu'un qui vous déteste? On bouche nos oreilles, on ne les écoute même pas. Il peut dire des bonnes choses, mais on n'a pas envie de les écouter.
Amen. Laisse-moi donner le verset. En Luc 10, 27, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même.
Alors, nous avons besoin, et surtout dans l'Église, de faire un travail sur soi. On a tellement l'habitude de donner le bon conseil aux autres.
Les quatre vérités.
Tu sais, en une phrase qu'on dit, « Je vais te donner un morceau de mes pensées. » Mais quelques gens ont tellement donné des morceaux de leurs pensées, ils n'ont plus de cerveau. Ils sont, tu vois ce que je veux dire? Ils disent, « Oh, laisse-moi donner mon avis. Laisse-moi donner mon avis. Alors, garde vos avis. Je veux vivre ma vie. » Vous vous rendez compte? On a eu besoin de dire ça à la papa et maman de John parce qu'ils vivaient à Nice. J'ai dit, écoute, sauf si on vous demande un avis pour comment élever nos enfants, laisse-nous tranquilles. Mais quand on avait besoin de leur conseil, dis donc qu'ils étaient sages. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si quelqu'un a toujours dit, il faut que vous fassiez ça! Oh là là! Ça, c'est pas bon du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire? Nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes. Alors dis, je m'aime.
Je m'aime. Je sais que c'est difficile, monsieur. Right? Les hommes dans notre crise aussi ont un grand problème avec cela, et encore certains, mais c'est l'idée. On a besoin de commencer à aimer la création que Dieu a faite. Parce qu'on peut passer, et je pense, on vit dans un monde actuel qui n'accepte absolument rien de ce que nous sommes, n'est-ce pas? On voit avec, si tu regardes la télé un petit peu, tout le monde est en train de se changer. Donc le nez est trop grand et tout le reste. On enlève ici, on met là.
Ouais, on change tout le corps.
On essaie de faire tout pour être quelqu'un d'autre. Mais si Dieu a voulu des copies conformes, il aurait fait des copies conformes. Dieu aime le fait que nous sommes chacun si différents l'un de l'autre.
Amen.
Et c'est quelque chose, je pense, de très fondamental de la vie chrétienne, de dire, je m'accepte comme Dieu m'a fait. Il m'a donné des dons, il m'a donné des talents, il m'a donné une certaine personnalité. Il veut modeler cela. Il veut qu'on développe ses talents et ses dons. N'est-ce pas? C'est pas qu'on dit, je suis comme ça, laisse-moi tranquille. Mais qu'on dit, je suis comme ça, Seigneur, aide-moi à grandir et développer ces choses. Vous comprenez? Parce que je pense que le monde veut que nous vivons la vie des autres.
Donc, spectateur! Fais des zapping! Zoom, zoom, zoom. On regarde la télé, on n'a pas besoin de vivre. On reste dans nos chaises, tu sais, en train de manger de popcorn. Et... C'est ça, il y a des gens qui ne vont même pas à l'église.
Ouais.
Tu sais, ils regardent. Tu sais, quelquefois, je rentre dans notre chambre à coucher, parce que c'est là où se trouve l'ordinateur, et je vous écoute.
Oui, on vous écoute. Ça,
oui, parce que vous êtes sur Internet. Alors, j'ai les Québécois qui sont dans ma chambre. Vous vous rendez compte, me rend visite de temps en temps à Nice, et j'entends qu'un enfant de pêche, et vous êtes des hommes, Ça, c'est non, s'entendre que vous êtes beaucoup de hommes.
Mais on a tous ces programmes aujourd'hui de réalité. Vous avez peut-être... Ouais. Mais il y a tout sauf réalité dans ces programmes. Ouais. Et ce n'est pas ma réalité. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas la façon que je veux vivre.
Non.
Mais le monde veut qu'on soit spectateur des autres. Et moi, je dis...
Et mécontent de soi.
Mais exactement. Mais on est toujours mécontent de soi quand on regarde les autres. Parce que où tu crois que tu es mieux, et ça, c'est un grand problème. Parce que la Bible dit que Dieu résiste les orgueilleux.
Oh,
et c'est grâce aux hommes. Ou tu crois que tu es moins. Et normalement, je pense au Québec, c'est comme en France et en Angleterre, oui, nous avons surtout un problème avec une baisse d'estime, n'est-ce pas? Notre système éducatif nous baisse, nous abaisse et nous abaisse. Donc on a besoin de laisser la parole de Dieu nous relever et nous établir et dire, je suis qui je suis par la grâce de Dieu.
Amen.
Et je suis moi, je ne suis pas vous. Et pendant longtemps, on a combattu parce que, vous savez, je fais encore des fautes de français, et mon accent, et Laura aussi. Et après, moi, on dit, mais un instant, Dieu a choisi qu'on soit en France, Dieu a choisi qu'on prêche en français, et faute ou pas faute, ce n'est pas grave ça. Ce qui est important, c'est de vivre notre vie et d'être heureux avec ce que Dieu nous a donné. Amen. Et je pense, au niveau de la communication, si vous êtes toujours en train de vous comparer avec les autres, toujours concerné de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Vous savez, tellement de gens vivent et meurent, et leur base de leur vie, c'est qu'est-ce que les autres pensent de moi. Moi, je dis, il faut arriver à mon lit, je m'en moque de ce que les autres pensent de moi. Carrément, ça m'est égal de ce que les autres pensent.
Je ne dis pas qu'on maltraite les autres.
Non, mais laisse-moi terminer.
Ouais.
Ce qui doit être la base, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi.
Amen.
Et je sais pour certains, ils sont beaucoup plus concernés avec ce que les voisins pensent que ce que Dieu pense. Et moi, je dis, vous n'allez jamais marcher dans la bénédiction de Dieu. Oui. En ayant cette attitude, il faut dire, qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense? Donc, je crois que si nous marchons selon ce que Dieu pense de nous...
Laisse-moi raconter une blague, OK? C'est une véritable blague. Au début...
C'est une véritable histoire ou
c'est
une blague?
C'est une véritable histoire.
OK.
Mais c'est une blague en réalité.
Non, mais c'est drôle.
C'est drôle, OK.
Voilà.
Okay. OK. Vous savez, au début, quand on est arrivé en France, je ne pouvais pas parler français. D'accord? J'avais un verset, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je savais que la puissance de Dieu allait descendre et tout allait changer. Le réveil en 6 mois. Ça fait 19 ans et demi passé, d'accord? On est toujours en train de
croire
dans la tente chaque jour. Et je rentrais dans le magasin, on a appris à chanter, alors après 3 jours, et la présence de Dieu se manifestait, mais je ne pouvais pas demander ça du café. C'est trop pénible. Et de dire ma chambre d'hôtel, c'était 2-1-7. D'accord? Et John m'a envoyé dans le magasin pour acheter des livres. Alors, je rentre dans le magasin et je dis, oh, je prends tout mon courage en main, d'accord? Parce que je ne peux pas bout de tes voix, il fallait essayer de trouver tous ces mots pour les mettre ensemble. Alors, je rentre dans la petite boutique et je dis, je veux 4 ça.
Ah oui, c'était comme ça.
Vous savez pas les choses, d'accord? Il dit, vous voulez 4 tranches de jambon? Je dis, non, je veux 4 ça.
Et comprenez pas que les gens tournaient pour je veux ou vous voulez.
Je dis,
non, je veux.
Je veux. Et tu sais, c'était tellement dur. J'ai déjà envoyé dans un autre et... Il dit, Laura, je veux que tu achètes le viande pour ce soir. En boucher, d'accord, ok, je rentre dans un autre magasin, je dis, je veux 250 grammes, ça! 250 grammes pour 5 personnes, c'est pas beaucoup de viande. Je dis, c'est pas cher ici. Je rentre à la maison cette heure du soir, je commence à préparer les dîners. Ah! Un autre jour, je dis, on va faire un coup de rubik. Je dis, levez vos jambons. Mais vous savez, j'étais en train d'essayer de communiquer. Je me suis plantée à maintes reprises.
Et elle aurait pu abandonner, comme moi, j'avais fait un peu de français à l'école. Donc j'avais des bases, mais c'était tout sauf perfectionné. Et on aurait pu parce que les gens rigolaient. On avait des cultes où les gens s'étaient éclatés de rire au plein milieu de... Ouais,
et on ne savait même pas pourquoi ils riaient.
Et on aurait pu abandonner la partie comme vous avez eu envie aussi. Et quelquefois, on a laissé tomber, n'est-ce pas?
Oui.
Parce qu'on ne savait pas comment nous communiquer. Et qui aime être ridiculisé? On n'aime pas ça, n'est-ce pas? Et pour Laura, elle dit, mais je sens comme je suis bête. Il dit,
je regarde comme ding-dong.
J'ai éducation donc élevée, mais je peux même pas poser des questions, je peux même pas comprendre les réponses. Je sens si bête. Donc,
on rentre dans le magasin, c'était pour les épis, et on débouchait le nez. Et les gens regardent comme si on était des extraterrestres. Parce qu'on allait en train de rentrer. On savait pas si c'était le canal.
Oui. Oui, mais on savait pas. Mais je pense un très, très grand pas en ce qui concerne la communication, c'est de dire, je suis qui je suis. Et peut-être, à ce moment où je communique mal, je peux apprendre cela. Mais ce que je ne dois pas faire, ouais, c'est de m'arrêter et de me reculer et dire, ça n'a pas marché une fois, donc j'abandonne. Et je trouve que beaucoup de gens, sans le dire, font cela. Les gens rigolaient sur moi la dernière fois que j'ai essayé quelque chose, donc j'abandonne. Et on est trop concernés. Dis avec moi, je ne suis pas trop concerné.
Je ne suis pas trop concerné.
À ce que pensent les voisins.
À ce qu'ils pensent les voisins.
Et même mes frères et sœurs.
Et même mes frères et sœurs.
Dans l'église. J'ai l'impression que dans l'église, beaucoup de gens vivent pour ce que pensent les autres. C'est la même chose. Ouais, ma marche avec le Seigneur, ouais, c'est ma marche avec le Seigneur. Et je suis à différents niveaux que vous. Dans certains domaines, j'ai fait plus que vous. Mais dans d'autres domaines, je ne suis pas arrivé là où vous êtes arrivé. Parce qu'on est tous en train de marcher et n'est-ce pas? Notre pasteur en Angleterre, il a fait un enseignement super parce que les gens étaient tout le temps en train de dire, il faut être équilibré, il faut être équilibré. Et on prêchait, il faut être équilibré. Il dit, voilà, si je reste comme ça, je suis équilibré. Je ne vais pas tomber. Il dit, mais si je veux avancer, excusez-moi, je recule. Si je veux avancer, il faut que je vais dans une position de déséquilibre, un autre, pour avancer. Et c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Dieu touche un domaine de votre vie, c'est comme si c'est la chose la plus importante, il n'y a rien autre. Nous avons remarqué ça à l'église, quand on avait un séminaire sur un sujet, on avait un séminaire sur ceci, et tous les gens dans l'église disent, ça c'est la réponse pour la rêver, c'est ce qu'il nous faut. On n'avait jamais entendu ça de leur... On avait prêché, mais ils n'avaient pas entendu. On n'a jamais entendu ça de leur vie. C'est le message, il faut prêcher que ça. On dit, oui, c'est très bien. Et le prochain orateur venait, il prêchait sur d'autres choses, et les mêmes gens, oui, c'est ça le message, c'est ça qu'il nous faut. On dit, oui, on va de position de déséquilibre à un autre. Toutes ces choses sont importantes, mais il faut les mettre ensemble, n'est-ce pas? Et dans votre vie actuellement, je pense que je me trompe pas, si vous êtes là à l'église aujourd'hui, Dieu est en train d'agir dans votre vie. Et normalement, si vous êtes là, Dieu est en train de toucher quelque chose et travailler quelque chose. N'est-ce pas? Et nous avons besoin de dire, qu'est-ce que Dieu est en train de travailler? Parce que les autres peuvent penser qu'on a besoin de ceci ou on a besoin de ça, mais en réalité, c'est qu'est-ce que Dieu pense? Et parce que si je traite les choses que Dieu est en train de traiter, je peux les régler. Si j'essaie de traiter les choses que les autres croient que je traitais, il se peut que je ne vais faire que du mal.
Et vous savez, le Saint-Esprit est tellement gentleman. Il fait des choses, il te va sur une demande à la fois. Une demande à la fois. Mm-hmm. Ça, on va te montrer tous les saltours qui existent dans ta vie.
Mm-hmm.
Il va dire, ça, hey, saltours! Et tu dis, je vais rester en lit avec le... L'oreiller sur ma tête, je ne vais même pas me réveiller parce qu'il y a trop de choses à faire dans ma vie. Mais ce n'est pas du tout comme ça avec Dieu.
Mm-hmm.
Dieu va dire, il y a cette chose,
mm-hmm.
on va régler ça.
Comment ça?
On va regarder ce que tu as me dit à propos de toi-même.
Ouais.
Arrête de flageller toi-même, mes amis. Dieu vous aime.
On va tourner en Éphésiens chapitre 4. Et on va regarder le verset 29. Ça, c'est un verset qu'on a travaillé beaucoup. Éphésiens 4 et verset 29. La communication, la base de la communication, je crois, pour nous en tant que chrétiens, c'est d'apprendre à parler comme Dieu parle. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu parle toujours gentil. Est-ce que vous avez remarqué? Même quand Dieu nous reprend, est-ce que ça vous est arrivé que Dieu vous a repris? Oui. La Bible dit que s'il ne nous reprend pas, on est vraiment pas ses enfants. Il nous reprend, mais je trouve que quand Dieu nous reprend, il est fait avec tact, il a fait gentiment, il a fait avec une telle douceur que j'ai envie de changer. J'ai envie de me repentir si j'ai péché. Quand le Saint-Esprit me touche dans le domaine, il dit, tu as fait tort là, tu as péché là. C'est comme si, oh merci pour m'avoir dit. Mais quand le diable fait, quand le diable, ouais, il dit, tu es minable, tu es rien, tu es nul. Et on va aller se cacher sur un rocher quelque part, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et je pense qu'il faut que nous disions tel père, tel fils.
Tu sais pourquoi on veut cacher sous le rocher?
Oui.
Parce qu'il est sous le rocher aussi.
Ok, c'est un serpent, oui, ouais, je le savais. Je ok, qu'est-ce qu'il dit? Tu lis avec moi?
Ok.
Vous êtes là en Éphésiens 4, 29? Vous connaissez ce verset? Qui a déjà ce verset souligné dans leur Bible? Ah oui, bien, donc le Seigneur vous a travaillé là-dessus aussi.
On avait même, tu sais ce qu'on fait chez nous, on marque des versets en gros et on le colle dans notre cabinet de toilette ou dans la salle de bain afin qu'on le répète souvent.
Ou dans la cuisine.
Ou dans la cuisine.
Il faut venir chez nous,
il y a des versets partout, on doit garder la parole.
Et il n'y a pas seulement des versets, mais des cassettes qui tournent presque dans chaque pièce aussi, donc comme ça, si tu passes d'une pièce à une autre, tu peux écouter un autre message. Si ce n'est pas passé qu'un par Internet. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche, nous sommes en train de parler de communication, tout le monde dit aucune.
Aucune.
Ok, aucune parole mauvaise. Peut-être qu'on a besoin de prendre un moment, qu'est-ce que c'est une parole mauvaise? Déplaisante, oui. Qu'est-ce qu'il y a une parole mauvaise? Une parole mensongère? Oui? Oui, qu'est-ce qu'il y a dit? Pardon? Choquant, oui.
Bon.
Oui. Quoi? Vulgaire, oui. Est-ce que Dieu vous a traité sur les mots vulgaires? C'est la première chose qu'il a fait quand je me suis converti. Vous savez, j'ai dit que je n'étais pas grand pécheur quand j'ai rencontré Jésus parce que je ne vais pas braquer des banques, je ne vais tuer personne, je ne vais pas violer des filles parce que j'étais jeune. Hein? Je n'avais pas eu le temps pour faire tout cela. Parce que ma nature était pécheresse. Mais une chose que j'avais vraiment une sale bouche. Et jamais à la maison. Jamais devant mes parents. Ils n'auraient jamais permis rien. Mais j'ai trouvé que c'était chouette, tu vois. Je croyais que j'étais un des mecs à l'école, tu vois. Et j'ai parlé vraiment d'une façon vulgaire. Et une des premières choses que le Saint-Esprit a fait quand j'ai invité Jésus dans ma vie, je ne pouvais plus prononcer des insultes, des choses malsaines, des choses vulgaires. Et tu sais, aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez, peut-être le Seigneur veut travailler ça, si vous vous laissez encore, vous dites, mais quand je suis en colère, je me perds. Imagine, il dit aucune parole.
Pour lui, c'était instantané.
Mm-hmm.
Pour moi, hallelujah. Oh là là, j'ai besoin de baver avec celui-là. Tu sais, Dieu ne te va chacun différemment.
Mm-hmm.
Moi, ouais. J'avais, oh là là, je ne pouvais dire tellement des insultes et des choses qui étaient malsaines et vulgaires. Dans 2 secondes, tu ne pouvais pas t'imaginer. Et même en tant que chrétienne, baptisée du Saint-Esprit, j'avais une sale gueule. C'est ce qu'on dit en français. je disais des bêtises. Mais j'étais délivrée instantanément des drogues. Alors, parce que vous savez, Dieu travaille avec chacun de nous, unique, d'une façon individuelle. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on ne peut pas nous comparer aux autres. Dieu a une façon de jouer avec chacun de nous.
Je vous donne un verset pour ça parce que je crois que c'est très important et peut-être on va revenir dessus ce soir. En 2 Corinthiens 10, 12, vous n'avez pas besoin de tourner mais vous le marquez, je vous le lis. Il dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. 2 Corinthiens 10, 12. Il faut pas qu'on se compare avec les autres. Si quelqu'un est en train d'avancer avec une grande vitesse, oui, pour le Seigneur, on peut dire merci Seigneur pour ça, je veux ça aussi, mais je dois pas me comparer avec quiconque. D'accord? Donc, on va revenir? Oui. Il dit, aucune parole mauvaise. Donc, peut-être vous avez besoin de faire une liste des paroles mauvaises et dire, qui ne sort de ma bouche. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, ça veut dire qu'il y a lieu quelquefois pour dire rien. Moi, j'enseigne l'église à Nice. Si vous n'avez pas quelque chose de bon à dire, ne dites rien. Amen? Parce que quelquefois, on ne sait pas quoi dire. Si on dit quelque chose, si je dis quelque chose, je vais critiquer, je vais dire quelque chose qui est décourageant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me tais. Et vous savez ce que je fais? Si ça me travaille, je vais à la maison et je prie et je demande à Dieu. Si Seigneur, il me semble que mon frère fait une erreur, Père, je te demande d'aider ce frère. Ça vous est arrivé de croire que quelqu'un faisait fausse route pour trouver que la personne ne faisait pas fausse route? Mais on se croit toujours mieux, n'est-ce pas? Donc moi, je préfère aller devant Dieu et dire, je vais prier. Ouais. Si Dieu vous dit d'aller parler avec quelqu'un, faites cela avec douceur. Mais quelquefois, c'est mieux de se taire. Il dit, s'il y a lieu, qu'est-ce qu'il dit? Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique, c'est ça? On est en train de parler de communication. Et communique quoi? Une grâce à ceux qui l'entendent. Il faut que nous comprenions que nous sommes enfants de la grâce. Vous êtes d'accord? Et nous devons communiquer une grâce. Les autres sont là peut-être pour se comparer, pour critiquer, pour se vanter. Se vanter et tout le reste. Peut-être les autres se permettent, mais nous devons être là en train de dire, qu'est-ce que je peux dire pour encourager cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour bénir cette personne? Je veux communiquer une grâce. Vous imaginez une église où il n'y a que des paroles de grâce, que des paroles d'encouragement. Amen. T.L. Osborne, vous avez entendu le ministère de T.L. Osborne? Oui. Mais T.L. Osborne a dit que les gens sont prêts à venir de 160 kilomètres, 100 miles, pour une seule parole d'encouragement. Et nous avons besoin de dire, est-ce que les gens reçoivent ça quand ils me rencontrent? Est-ce que les gens veulent? Moi, je vois.
Mais je suis souvent de taquiner.
Ouais.
Je m'amuse. Mais tu sais, quand tu taquines, quelquefois, ça laisse les trous dans le cœur.
Mm-hmm. Ça blesse. Je vois les gens courir vers Laura. Peu importe où nous sommes, les gens de l'église, les gens partout. Les gens du monde viennent vers Laura. Et je me suis dit, pourquoi? Pourquoi elle attire les gens? Parce qu'elle est toujours en train de croire dans les gens. Elle est toujours en train de parler d'une façon positive. Elle croit. Et nous avons remarqué une chose. J'ai posé cette question à un jeune homme l'autre jour qui est venu me demander conseil. C'était mardi soir. Et il a dit, il y a telle personne qui m'a emmené au Seigneur, mon pasteur qui m'aide. Il dit, je crois que je suis un peu trop sérieux. Je dis, mais qu'est-ce que vous respectez chez ces deux personnes dont tu as énuméré, ton pasteur de jeunes et cet homme qui t'a emmené au Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a qui t'attire? Il dit, ces deux hommes respectent les autres. J'étais étonné par sa réponse parce que c'était venu tout de suite. Il a vu que ces gens respectent les autres. Et je pense que Laura communique cela. Et c'est pourquoi les gens viennent tout le temps. Les gens viennent sans hésitation à Laura pour la prière. Je parle des gens du monde, pas seulement des chrétiens. Parce qu'on peut dire, elle est pasteur, donc c'est évident que les gens viennent vers elle, c'est l'ancien, tout ça. Non, c'est le respect des autres. Et c'est quelque chose que je vois chez Laura, donc je ne peux pas me comparer avec Laura, je ne serai jamais Laura. Vous êtes d'accord?
Alléluia. Hein? C'est un bizarre mariage.
Oui, exactement. Mais je vois des choses chez les autres et j'aimerais développer ça un peu plus chez moi. Et j'essaie de développer ça, ce respect pour les autres. Si je n'ai pas quelque chose à dire pour encourager, qui va communiquer une grâce, peut-être c'est mieux que je me tais. Et s'il y a quelque chose à dire, je vais dire ça entre moi et Dieu.
John est un super docteur de parole. Et j'adore écouter mon mari.
Et je t'aime aussi. Excuse-nous.
Excuse-nous. Ouais.
Après 274 mois et 5 jours, nous sommes toujours amoureux.
Ouais,
ça fait presque 23 ans pour ceux qui n'ont pas leur calculatrice. Nous fêtons chaque mois.
C'est super. Les cadeaux sont géniaux. Il faut marquer le coup, n'est-ce pas?
Excuse-moi, je t'ai interrompu.
Oui, oui. Tu te rappelles où tu étais? Oui, tout à fait. Vous savez, pour communiquer bien, il faut savoir écouter.
Mmh. Oh oui.
Vous savez, si les gens ne prennent pas le temps de vous écouter, c'est des tchatchas, c'est des clochons qui sonnent. Mais quand les gens prennent le temps pour vous écouter, ça vous fait plaisir. Vous avez envie de déverser votre cœur.
Ouais.
Et une des problèmes dans notre société aujourd'hui, c'est que les gens ont peu de silence. Et surtout nous, les femmes, on pose une question et on répond à la question elle-même. Nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire?
Je donne le verset. En Jacques chapitre 1, verset 19, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. » Amen, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais il dit « prompt à écouter ». Tout le monde dit « prompt à écouter ». Vous aimez les gens qui vous écoutent? Non? Vous aimez les gens qui vous écoutent?
Amen.
Oui, donc soyez une personne qui écoute les autres. Amen?
Oui. Parce que
ce que vous semez, vous moissonnerez aussi. Si vous n'êtes jamais prêt à écouter les autres, les gens ne seront pas prêts à vous écouter non plus.
Amen.
Ça marche comme ça, n'est-ce pas?
Oui. Parce que vous savez, vous êtes des temples du Saint-Esprit, n'est-ce pas?
Oui. Amen.
Vous êtes des temples. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit
Alléluia.
De Dieu qui connaît toutes choses.
Mm-hmm.
Et nous voulons être un peuple qui fonctionne, qui sont prophétiques et qui collabore avec l'Esprit de Dieu.
Amen.
Et l'Esprit de Dieu veut vous révéler toutes choses.
Amen.
C'est pas les choses sales ou sordides, mais il veut vous révéler les choses afin que vous puissiez aider les gens dans votre entourage.
Mm-hmm.
Les mots prophétiques ne sont pas pour l'Église. Si vous lisez bien le contexte en Corinthiens 14, verset 2, c'est pour le monde. C'est pour toucher le monde. Et Dieu veut nous utiliser afin qu'on puisse aider et parler dans la vie des individus. Sans avoir besoin de me voici, dit l'Éternel, mes petits enfants. C'est pas ça, mais que nous parlons concrètement dans nos vies. Et Dieu veut vous donner des choses à dire. Et les gens disent, pourquoi tu dis ça? Oui, vous entrez en contact avec eux. Et c'est comme s'ils devaient voir leur cœur. Parce que Dieu veut déverser sa grâce et son amour dans leur vie. Et c'est vrai ce que j'en dis. Parce que je prends le temps d'écouter. Et Dieu ouvre les occasions.
Mais comment est-ce que tu écoutes? Peut-être on peut être un peu pratique ici. Il y a certaines choses qu'on a besoin de faire pour écouter, n'est-ce pas? Parce qu'on est en train de parler de communiquer. Et je pense qu'une des bases, c'est d'écouter les autres. Mais quand tu écoutes, comment est-ce que tu écoutes?
Je crois que la première chose qu'on écoute, c'est d'abord qu'on soit en communion avec Dieu. Tu sais, moi, je prends une habitude. Tu sais, les gens disent, Laura, tu souris tout le temps. Ils ont dit, tu étais toujours joyeux. Je dis, loin de là. J'étais gothique avant que gothique existait. Avant de venir. sais, tu me regardais à travers, je te tapais dessus. Tu sais, j'étais très violente avant que Jésus m'a libérée. Et, mais je garde en communion avec Dieu, je prie en esprit pendant que je souris. Et tu sais, Dieu nous parle, il nous dit des choses.
Ouais.
Et tu sais, je me présente. C'est très banal. Mais quand tu dis bonjour et tu touches la personne. Vous savez, nous croyons dans l'imposition de main, n'est-ce pas? Oui?
Mais on n'a pas posé, on peut pas aller dans la rue et imposer les mains sur les têtes de la plupart des gens.
Ça, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'ils vont téléphoner quelqu'un pour bien vous chercher. Tu comprends? Mais quand tu serres la main de quelqu'un, tu sais, c'est une imposition de main, mes amis.
Et ce qu'il faut faire, j'ai dit pendant longtemps, je ne rappelle pas des noms. Vous savez, ça c'est une mauvaise déclaration. Comment ça dire, je commence à apprendre les noms. Amen. Mais une chose de communication, oui, oui, c'est de prêter attention, de respecter quelqu'un, c'est de regarder bien dans les yeux. Tu vois,
parce que quelqu'un dit bonjour, tu dis mon nom,
tu es en train de regarder qui est autre là, il y a peut-être quelqu'un plus intéressant, non, bonjour. Hein? Hein? Non, d'être attentif, c'est vraiment de prêter attention, de regarder dans les yeux.
Tu dis bonjour, comment tu t'appelles?
Ouais.
Et tu sais, ça dénonce un moment. Et tu peux ressentir, à cause de la compassion de Dieu qui demeure en vous, celle de quoi ces personnes ont besoin.
Ouais.
Vous savez, nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices pour Christ Jésus.
Amen.
Et le monde autour de nous est tellement languissant. Ils sont abattus. Ils vivent des cauchemars chez eux. Quelquefois, il fait un beau visage, il fait un beau...
façade. Ouais.
C'est comme ici, vous croyez que toutes les maisons sont faites en briques. Mais en réalité, c'est en bois. Chez nous, ils sont plutôt en briques. Le bois, c'est trop cher. Et c'est pareil pour la vie des gens. Alors, quand je prends la main, je le regarde dans les yeux, je dis bonjour, je dis comment tu t'appelles.
Et après ce qu'on fait, on répète leur nom. Vous savez que les gens savent que vous avez écouté quand vous répondez. Et donc, je dis bonjour, vous appelez Laura. Laura? Ok, bonjour Laura, ravi de faire ta connaissance. Tout de suite, j'ai dit son nom. C'est plus difficile à oublier un nom que nous avons déjà prononcé. Mais déjà, j'ai dit, j'ai déjà montré du respect pour cette personne. J'ai déjà montré, il y a déjà un contact, n'est-ce pas? Et comme Laura dit, quand tu touches quelqu'un, tu vas ressentir les choses, tu vas connaître les choses. Maintenant, je sais qu'il y a certains chrétiens...
C'est pas mystique!
Non, c'est pas mystique, non. C'est spirituel, mais c'est pas mystique. C'est surnaturel, c'est pas tellement spectaculaire. Et on a eu des gens... Donc, l'année dernière, nous avons eu une grande vague de nouvelles personnes dans l'Église, des gens qui étaient convertis, et ils sortaient de toutes sortes de milieux, et il y avait des chrétiens qui ont eu peur. Et ils ont dit, celui-là, il est franc-maçon, elle a un esprit de séductrice. Et j'ai dit, écoutez-moi, si je vous écoute, je mettrai tout le monde de l'Église dehors. Tout le monde. Chacun a des choses à régler. Vous êtes d'accord?
Oui. Nous inclus, oui, par contre. Oui,
oui. Un vide Église. Une Église parfaite. Oui, vide. On va laisser l'Esprit de Dieu et les anges. Non, c'est que, je dis, c'est évident, si ces gens sortent du monde et entrent dans l'Église, ils viennent avec un bagage. Vous êtes d'accord? Donc, est-ce que j'ai peur de ces esprits? Est-ce que j'ai peur de ces comportements? Pas du tout, parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi est plus grand et plus fort que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit qui peut-être leur anime. Mais je sais une chose, c'est que s'ils viennent en vérité pour chercher, ils vont trouver. Et si nous sommes là pour les accueillir et qu'on n'a pas peur, comprenons bien, Dieu agit par la foi. Le diable agit par la peur et la crainte. Et l'instant qu'on ouvre, oh mais j'ai peur, ces gens sont bizarres. On a une femme qui est venue pendant mon absence, elle a les cheveux mais orange, mais fluo, extraordinaire. Hein? Et tu vois cette femme...
En France, on aime beaucoup le rouge, tu vois. Oui, mais, c'est pas comme ici,
non,
le
mais,
blonde,
c'est, mais c'était orange. Hein? Fluo. Et s'habillait comme une femme du monde. Elle sortait de toutes sortes de problèmes et on peut faire une ou deux choses, n'est-ce pas? On peut l'accepter et dire, ok, tu viens comme ça, nous aussi on est sortis de quelque part. Oui? Ou on peut dire, non merci, tu n'es pas bienvenu ici.
Mais on a... Nous avons deux amis pour encore. On a deux amis qui sont très chers à nous. Et elle a les cheveux bleus. Bleu vif. D'accord? Sur le noir. C'est très original. Son mari est coiffeur.
Et lui, il est baraqué.
Et il a les
cheveux rouges avec une queue de cheval, d'accord?
Alors, chaque fois qu'il veut rendre visite à l'église, tout le monde saute dessus parce qu'ils avaient des évangélisés.
Mais ils sont tous les deux sauvés, baptisés du Saint-Esprit, engagés avec Dieu. Ils sont mariés avec leur propre fille qu'ils ont eue ensemble. Mais à cause de leur look, tout le monde considère tout de suite qu'ils ne sont pas chrétiens. Moi, je dis, considère que les gens sont chrétiens. Considère que les gens veulent marcher avec Dieu. Traitez les gens comme si. Vous savez, vous traitez les gens que vous savez ne sont pas chrétiens, comme s'ils sont chrétiens. Tu partages avec eux, comme tu partages avec tes frères et tes chrétiens, ils vont dire, explique-moi ça. Mais si on baisse les yeux, on les traite comme ils sont rien, qu'ils ne comprennent rien, comme c'est des abrutis, ils vont dire, mais moi, je ne veux rien savoir de ces personnes. Ils me traitent comme un rien. Il faut les traiter bien. I think we're going to pray. OK, on va prier. Vous voulez vous lever?
Cet après-midi, nous allons traiter le sujet comment vivre avec une bombe explosive.
Ouais.
Vous savez, la colère. Et quoi faire avec...
Le jugement irrespectueux.
Oui. Et le troisième, c'est d'être malhonnête.
Le mensonge. On va traiter donc comment résoudre les conflits qu'on puisse avoir, autant avec les gens qui travaillent avec nous, les gens avec qui on partage peut-être un appartement, notre mari ou femme, nos enfants, les membres de notre famille plus éloignés. Amen. Donc on vous invite à revenir et on va prier maintenant. Amen.
Amen.
Père, nous te remercions.
Hallelujah.
Oh, merci pour ta bonté envers nous et merci Seigneur que nous sommes en train d'apprendre à nouveau comment communiquer. Et Père, je te remercie pour ton esprit qui nous montre à chacun ce que nous pouvons faire pour améliorer notre communication. Père, nous avons pu partager certaines choses déjà, mais merci Père pour ce que nous allons pouvoir dire tout à l'heure et merci pour ton esprit qui nous aide chacun individuellement. Hallelujah. Merci parce que tu nous traites comme nous sommes, créés à l'image de Dieu, tout à fait différents les uns des autres. Père, nous te bénissons et nous te louons au nom de Jésus. Amen.
Hallelujah. Père Céleste, nous te remercions pour le privilège d'avoir partagé la parole de Dieu.
Merci.
Avec nos amis ici au Québec. Père, nous demandons que tu agis encore plus profondément dans chacun de leurs vies, comme nous voulons que tu fasses dans le nôtre. Merci Seigneur pour l'aide. Nous demandons que le sang de Jésus couvre sur leur vie. Et merci Seigneur pour davantage de fruits chaque jour dans le monde qui les entoure. Au nom de Jésus. Amen.
Hallelujah. Donc, avant que nous terminions pour ce matin, il faut que je fasse un appel parce que je ne vous connais pas. Peut-être que c'est votre première fois ici dans cette église. Vous avez trouvé un excellent endroit. Comme Pasteur Kennedy, nous nous connaissons depuis 20 ans maintenant et je ne peux pas avoir un plus grand respect pour un couple. Nous aimons Ken et Tonya et nous aimons cette église. Donc, c'est notre quatrième visite ici. Hein, et ce ne sera pas la dernière, je vous promets. Amen. Mais peut-être vous êtes là, c'est votre première fois. Peut-être vous êtes de Drummondville et vous dites, qu'est-ce que cet étranger fait ici? Nous sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé pour moi peut se passer pour vous. J'étais perdu. J'avais tout pour être heureux. J'avais une famille qui m'aimait, ouais, des parents, des frères et sœurs, mais à l'intérieur de moi, j'avais seulement le vide. Ouais, quelque chose clochait. Et j'ai réalisé, donc je n'étais pas élevé dans l'église, je ne connaissais rien de Dieu. Mais quand j'ai rencontré les chrétiens pour la première fois, j'ai vu ce que je cherchais. Je ne savais même pas que je cherchais. Ouais. J'ai vu la joie et j'ai vu la paix. Et c'était ça qui me manquait le plus. Et j'ai dit, comment est-ce que je peux avoir cette joie et cette paix? Ils m'ont dit, c'est Jésus. Et j'ai dit, non, je ne veux pas la religion. Je ne veux pas ça. Ouais. J'ai dit, non, ce n'est pas la religion. C'est que nous avons rencontré Jésus personnellement. Et donc, je lui ai demandé, comment est-ce que vous faites cela? Ils m'ont dit, tout simplement, vous l'invitez de venir dans votre vie. Vous acceptez qu'il est mort sur la croix du calvaire pour vous. Et vous pouvez avoir la joie et la paix que nous avons. C'était quelque chose de surprenant parce que c'est la première fois que je vais rencontrer les chrétiens. Ouais, mais ça m'a tellement frappé. Je dis, OK, je vais inviter Jésus. Et j'ai invité Jésus ce soir-là d'entrer dans ma vie. Et il m'a totalement transformé. Je n'ai plus jamais ressenti le vide à l'intérieur. J'ai vécu dans la paix et la joie depuis. Beaucoup de tribulations, des circonstances de la vie dans laquelle nous parcourons, mais Jésus a toujours été là, il sera toujours là. Et je peux vous dire, sincèrement, je suis un homme heureux. Pas parce que j'ai une femme extraordinaire, parce que j'ai une femme extraordinaire. J'ai deux enfants merveilleux aussi. Je suis béni sur plusieurs plans, mais je suis un homme heureux parce que Jésus est mon meilleur ami. Et parce que j'ai, à travers Jésus, j'ai une communion et une communication quotidienne avec Dieu. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, dites, moi, tout va mal. Ouais, je ne sais pas, peut-être c'est ce que tu dis, je ne comprends pas toutes ces choses. Moi, je dis tout simplement, si vous voulez, j'aimerais prier avec vous. Et on peut prier, demander à Jésus de se révéler à votre cœur. Et si peut-être vous dites, non, mais moi, je suis prêt, je veux inviter Jésus, je suis déjà venu, mais je n'ai pas fait ce pas. Moi, je veux prier avec vous aussi. Ce qui est important, c'est que nous ne partons pas ici sans avoir fait notre paix avec Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez vécu cette semaine. Donc, avant de partir, on avait un petit peu de musique et ceux qui veulent avancer puissent avancer. Mais vous, là où vous êtes, faites votre paix avec Dieu et prenez vos décisions. Je suis sûr et convaincu que chaque fois que nous prêchons, Dieu parle. Il a peut-être dit une seule chose dans votre cœur pendant tous les moments que Laure et moi nous avons parlé. Mais ce qu'il vous a dit, c'est ça qui est important. Et c'est là où il faut agir. Amen. Il ne faut pas essayer peut-être de retenir tout ce que nous avons dit. Vous pouvez procurer la cassette ou CD, je ne sais pas comment c'est. Hein? Ici, pour écouter si vous voulez. Mais Dieu vous a dit quelque chose. Et maintenant, c'est le moment pour moi le plus important. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que Dieu vient de vous dire? Parce que vous pouvez partir d'ici pareil que vous êtes venu. Ou vous pouvez partir comme Pasteur Ken a prié au commencement, changer, parce que vous avez entendu quelque chose de Dieu et vous avez décidé avec l'aide du Saint-Esprit, oui, de changer ça. Amen. Ou vous êtes seulement en train de dire, Saint-Esprit, oui, je veux que tu règles ça. J'ai essayé moi-même, mais je te demande. Donc, ce matin, est-ce qu'il y en a des gens ici qui veulent inviter Jésus d'entrer dans leur vie? Des gens qui veulent faire un pas vers Jésus. Vous n'avez jamais fait. Si c'est vous, je vous demande tout simplement de lever la main. Comme ça, nous pouvons prier. Je veux prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, en levant la main, dit, je veux inviter Jésus dans ma vie? Alléluia. Merci. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre? Quelques d'autres personnes? Alléluia. Qui veut faire un pas vers Jésus? Alléluia. Ok. Merci. D'accord. Donc, si tout le monde veut prier et prendre la décision, madame, vous voulez venir devant, on va prier avec vous, Laura. Prier avec vous. Do you want to come? Greet me, please. Alléluia. On va prier avec vous en personne. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Et pendant que Laura prie, je vais prier pour vous. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons mettre en pratique ce que tu nous as dit ce matin. C'est vrai, nous avons entendu beaucoup de choses. Mais Seigneur, tu as parlé. Tu as parlé dans nos cœurs. Et Père, nous voulons réagir. Nous ne voulons pas partir de cet endroit sans avoir pris notre décision de faire ce que tu nous as demandé de faire. Père, je te remercie dans le nom de Jésus pour l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous de tenir ferme nos engagements. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs parce que tu vis grand en nous. Encore plus grand, Seigneur, en nous. Encore plus grand. Merci, Jésus. Merci, Père.